En France, l'heure de la mobilisation a sonné. Éric Lombard, le ministre de l'économie, convie demain des investisseurs et industriels à Bercy avec pour but de trouver de l'argent pour financer le réarmement. C'est l'œil de Raphaël.
Avec quelque chose Merci de beaucoup. Très romantique.
Et pour trouver de l'argent, il n'y a pas 50 solutions, Raphaël.
Non, il y a une première possibilité déjà, c'est du financement privé avec des investisseurs ou l'épargne des Français, sujet hautement sensible. Parmi les idées, les possibilités, il y a le fait de proposer par exemple des assurances-vie, voire un livret spécifique. On a parlé d'un livret type livret A pour financer le réarmement, la défense notamment. Et puis il y a une autre possibilité, c'est un financement public. Alors évidemment, il y a aussi le sujet des impôts. Là, officiellement, le gouvernement est clair, il est hors de question de lever un nouvel impôt. Mais il y a l'emprunt. Alors ce serait pas tout à fait nouveau. Je ne sais pas si vous voyez l'image qui apparaît à l'écran. C'était pendant la Première Guerre mondiale qui a été financée notamment à trois quarts par des emprunts successifs. Ça, c'était une affiche par le peintre Abel Fèvre, pour la France, versez votre or. Et donc effectivement, la piste préférentielle, on va dire que pour le moment, c'est plutôt un emprunt.
Est-ce qu'on va en revenir là avec ce genre d'affiche? On va se poser la question dans un instant. Et les Français, ils en pensent quoi?
Et ben justement, on voit bien que le sujet est assez épineux, et notamment quand on regarde le résultat d'un sondage Ipsos pour le Parisien, qui est sorti il y a quelques jours, avec ces scénarios qui sont évoqués. Et on voit que les Français, c'est assez différent selon les scénarios. Le taux d'acceptation est très différent selon les scénarios. Par exemple, 59% qui accepteraient un emprunt national qui serait rémunéré au taux du livret A, 39% qui accepteraient de partir un an plus tard à la retraite et 33% qui accepteraient une hausse modérée de leur impôt de 5%.
Merci beaucoup Raphaël. Beaucoup de choses à dire sur ce sondage et sur ces pistes de financement. Bonsoir Roselyne Bachelot, merci de nous avoir rejoints. Anna Cabana est toujours avec nous.
Zyros, pâle, bleach.
C'est vrai que vous êtes très pleine de peps vous aussi ce soir. Franck Boisise, journaliste économie à Libération. Bonsoir Franck.
Bonsoir Périne.
Vous n'avez pas mis un petit rose péchu, non?
Non, mais
non. Ça suffit.
Et puis c'est le teint de Franck Boisise.
Et bonsoir Alain Mandler.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation, ancien ministre de l'économie. Il est très intéressant ce sondage quand on demande aux Français s'ils sont capables, s'ils acceptent de faire un effort pour financer le réarmement. Oui, mais pas n'importe lequel. Non à une baisse des prestations sociales, non à l'idée de travailler plus, non à une augmentation des impôts. Les Français, on le comprend, ne sont pas prêts, alors qu'on sort tout juste d'une crise inflationniste, à se serrer de nouveau la ceinture, même au regard du contexte international. Que leur répondez-vous, vous, l'ancien ministre de l'économie ?
Bah qu'ils ont raison.
Ils ont raison.
Bah oui. On va pas faire une dette de plus.
Ouais.
On a un gros problème devant nous. Un défi extraordinaire, c'est de faire des économies. On a, si vous voulez, un retard d'environ 10 points sur des pays que la moyenne européenne. 11 points par rapport à l'Allemagne, il y a tant de pays qui se portent pas plus mal que nous.
Oui, mais enfin, l'Allemagne, pour le coup, ils ont desserré les vannes, ça y est, c'est parti, maintenant c'est le retour du quoi qu'il en coûte, version allemande.
Oui, mais d'une façon générale, on ne peut pas dire qu'ils vivaient vraiment moins mal que nous. Vous ne direz pas ça de la Suède, vous ne direz pas ça des Pays-Bas, et pourtant, ce sont des pays qui, grosso modo, font 10 points de dépenses publiques en moins que nous. De toute façon, on est arrivé dans une impasse. On se rend bien compte que le toujours plus de dépenses publiques, celui qu'on a pratiqué pendant des décennies, nous sommes au bout de l'étatisme, avec le double record de la dette, des prélèvements obligatoires et bien d'autres.
Mais le contexte international aujourd'hui ne justifie pas qu'on augmente la dépense publique, notamment pour le budget, qu'on double le budget de la défense.
Non et non. Il nécessite que l'on fasse deux fois plus d'économies, même c'est même pas vrai d'ailleurs, mais qu'on fasse beaucoup plus d'économies qu'on avait prévu. En tout cas, c'est ma thèse, je la défendrai jusqu'au bout.
Alors, est-ce qu'on peut faire plus d'économies? Je vais vous poser la question dans un instant, Franck Boisise. Mais avant, j'aimerais quand même, Roselyne, vous faire réagir à ce sondage, parce qu'on voit qu'il y a comme un décalage entre le ton. La gravité employée par le gouvernement, quand Emmanuel Macron parle de menaces russes, de réarmement, d'efforts de guerre, et les efforts que sont prêts à consentir les Français.
Non, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même que plus de la moitié des Français est prêt
prête, pardon, la moitié, est prête à investir dans un emprunt. L'industrie d'armement, c'est une industrie porteuse. C'est une industrie qui crée des richesses. C'est une industrie qui crée de l'emploi. C'est pas de l'argent qui est à fond perdu, versé dans le déficit. On estime que le taux de retour est deux fois, 1,7 fois et jusqu'à deux fois l'investissement qui est fait. Plutôt que d'avoir une épargne dormante, ce qui est le cas actuellement, d'avoir une épargne qui pourrait se diriger vers des industries d'armement, je dirais que ça peut être un bon coup, excusez la vulgarité de l'expression.
Et là, mais
ça
pour
n'a
le coup,
rien
les Français
à voir avec
favorables.
Le déficit de l'État. Hein.
Et là, pour le coup, les Français, effectivement, ils sont favorables. On va revenir sur cette solution de l'emprunt national qui est évoquée.
Il faudrait 5 milliards dans l'immédiat pour lancer ces industries, pour avoir un effet levier sur les industries d'armement. Et de toute façon, sur un mode volontaire, il ne s'agit pas de piocher dans l'épargne des Français, d'ailleurs.
On va expliquer...
Pourquoi le faire, puisque ils sont d'accord.
Mais on va expliquer précisément ce qu'on appelle emprunt national et qu'est-ce que ça pourrait rapporter effectivement à l'État, et qu'est-ce que ça pourrait peut-être aussi rapporter aux épargnants. Mais juste avant, Franck Boisize, sur ce que disait Alain Madelin il y a un instant, il faut faire des économies. C'est comme ça qu'il faut financer le budget de l'armée. Vous faisiez non de la tête. Et puis j'ai une autre question aussi. Quand je vois ce sondage où les Français... Alors il y a la palme du chiffon rouge pour les Français, c'est l'augmentation des impôts. Alors le gouvernement a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts. Mais est-ce qu'on peut passer de 50 milliards à 100 milliards d'ici 2030 de budget en matière de défense sans augmenter les impôts ?
Sans augmenter les impôts, peut-être. Sans augmenter les dépenses publiques, sûrement pas. C'est là où je suis en contradiction avec Alain Madelin. Et d'ailleurs, ce qui se murmure à Bercy quand on secoue un peu le cocotier de ce côté-là, c'est que effectivement, l'augmentation du budget de la défense, certes, elle peut se faire en faisant appel à l'épargne des Français, mais à une épargne volontaire. C'est-à-dire qu'ils vont choisir de mettre une partie de leur argent dans des investissements liés à la défense, des investissements qui seront rémunérés. Il ne s'agit pas de faire de la contrainte. Mais on
ça
ne peut pas...
une dette.
Bah, ça s'appelle une dette, oui,
mais ça s'appelle un investissement.
Ça s'appelle bien évidemment, mais...
Mais en revanche, ce qui a moins la cote, parce que ça coûte très cher pour le coup, c'est le grand emprunt national. Parce que...
Oui, mais alors justement, on va s'arrêter sur l'emprunt national, parce que cette source de financement-là, elle trouve grâce aux yeux des Français. Il faut quand même expliquer ce que c'est. C'est un emprunt que l'État contracte, non pas sur les marchés financiers, mais auprès des Français. Comment ça se traduirait, c'est vers l'emprunt national ?
C'est-à-dire, on lance une grande souscription. Il y a eu des précédents dans le passé.
C'est ce qu'on a vu avec Raphaël, effectivement.
Mais sans remonter aussi loin, il y a eu l'emprunt barre hein, pour les plus âgés. Le seul problème, c'est que si c'est rémunéré au taux du livret A, l'État doit rembourser cet emprunt. Et ça lui coûte beaucoup plus cher plutôt que de proposer des produits d'investissement aux Français qui vont exactement investir leur épargne, lesquels produits d'investissement ne seront pas rémunérés par l'État.
Mais est-ce que ce serait une bonne affaire pour les épargnants, pour les Français ?
Ah, si l'État lançait une grande souscription au taux du livret A, bien sûr que c'est une bonne affaire. Avec une contrainte pour l'État, c'est qu'on voit bien que le livret A, son taux de rémunération varie en fonction des taux d'intérêt. Et donc la grande peur de l'État, c'est que si à un moment donné, les taux d'intérêt se mettent à grimper, il doit réindexer le taux de rémunération de cet emprunt national. Et au final, ça coûte une fortune aux finances publiques.
Oui, mais au moins, ça permet que ça a été fait à la Madeleine par le passé. Je regardais le gouvernement Balladur en 93 l'avait fait. Pierre Mauroy, il y avait eu recours aussi dans les années 80. Donc ça permet d'apporter de l'argent vite, rapidement dans les caisses de l'État. Ça permet aussi de générer...
Surtout dans les caisses des entreprises pour financer des investissements pour financer. Colossaux. Hein,
mais comme là, on doit aller besoin. Vite, on doit se réarmer. Parce que là, on parle quand même à horizon 2030. Donc c'est doubler le budget de la défense à horizon 2030. Est-ce que ce n'est pas une solution, vu le contexte du moment, qui pourrait
je
être...
Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut faire des économies. En réalité, ce n'est pas tout à fait mon propos. Je dis, on a une formidable capacité à améliorer l'action publique. En réalité, il faut faire de l'efficacité de l'action publique pour, à l'arrivée, faire des économies. Et le défi qui est devant nous, c'est est-ce que l'on peut avoir une action publique plus efficace à un meilleur coût. La conviction est pour moi certaine, d'autres pays le font. Je pourrais, c'est pas le lieu ici, mais expliquer comment on le fait en reprenant mission par mission, en regardant si elle est toujours d'utilité, en regardant quel est exactement son coût, en regardant qui pourrait la faire autrement, en regardant comment on peut la faire autrement, etc., etc. Et dans ce réexamen global, surtout si vous le comparez à ce qui se fait à l'étranger, surtout si dans un certain nombre de cas, vous pouvez... Souvent, on a des chiffres dans la comptabilité publique, mais ce ne sont pas des prix en réalité. Souvent, ce sont des tarifs, des choses compliquées, un peu bureaucratiques. En mettant de la clarté dans les finances publiques et en essayant de redistribuer le pouvoir vers les acteurs qui sont le mieux à même d'exécuter cette tâche dans les meilleures conditions d'efficacité et donc de faire aussi des économies, il y a une réserve qui est extraordinaire. Et je pense...
Franck Boisy, n'a pas l'air d'accord avec vous. Oui, il fait non de la tête, raconter. Il dit non, il n'y a pas de réserve extraordinaire.
Il peut raconter ce qu'il veut, on n'est pas contraint à avoir des dépenses publiques comme nous les avons, car avec le taux de dépenses publiques que nous avons, nous collectionnons aussi de mauvais résultats en matière de santé, de mauvais résultats en matière d'éducation, etc., etc. Donc ne dites pas que la dépense publique est efficace.
Non, je
les Français d'ailleurs
produit,
mais c'est un modèle en matière de santé, des mauvais, on va pas dire.
Mais alors attendez, parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait. Je veux dire, même Ursula von der Leyen a décelé les contraintes budgétaires pour permettre aux États membres de se réarmer. L'Allemagne, quand on voit que l'Allemagne adopte ce bazooka budgétaire, 1000 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans, c'est considérable. Et qui iront complètement avec la rigueur budgétaire propre à l'Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de.
C'est bien là justement quel problème, Perrine. C'est-à-dire qu'on veut faire des économies de bout de chandelle d'un côté. L'économie, c'est quand même de l'épicerie, monsieur Madelin. C'est des dépenses et des recettes. Et donc, ce qu'il va falloir trouver pour financer l'effort de dépenses tel qu'il a été programmé et le doublement de vue de la défense, c'est 30 à 40 milliards. Donc, les deux ou trois bricoles que vous allez rogner sur tel ou tel ministère, pas ça qui va nous amener les 40 milliards dont on a besoin à horizon 2030. Donc, à un moment donné, ça passe par effectivement un desserrement des cantons de la bourse, ça passe peut-être par une acceptation d'un déficit budgétaire plus important, sachant que même l'Union européenne commence à considérer que le fameux critère des 3% de Maastricht pourrait s'accommoder de dépenses supplémentaires, ouais, compte tenu de la situation.
Un petit point pour vous dire que le gouvernement là est dans une opération industrie défense toute, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment
l'idée opération... c'est de mobiliser les investisseurs privés
et de montrer que voilà qu'on est dans qu'on a ouvert cette séquence industrie de défense. Il y a un événement organisé donc à Bercy, demain, avec le ministre de l'économie Éric Lombard et le ministre des armées Sébastien Lecornu, donc avec les investisseurs publics et privés et les industriels de la défense, ça c'est demain. Et puis vous avez des déplacements, puisque les mêmes ministres Éric Lombard et Sébastien Lecornu vont effectuer un déplacement conjoint en Dordogne sur le site du groupe Euranco, qui est leader européen des matériaux énergétiques utilisés
l'ancien
notamment
site de la SNP.
Par les armées. Et même François Bayrou entre dans cette danse des industries de défense, puisqu'il va visiter vendredi une entreprise d'armement à Bourges. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une communication gouvernementale et une volonté de montrer que François Bayrou et son équipe sont mobilisés sur ce terrain-là.
Le problème, c'est qu'il y a une confusion entre la nécessaire réhabilitation des dépenses publiques, où il y a certainement, et là je suis d'accord avec Alain Madelin, des choses à voir. Mais le problème, c'est qu'on mélange à la fois l'effort nécessaire sur la défense, absolument indispensable, et le fait qu'il faudrait renier sur le modèle social. Les deux choses, elles se conduisent. Confusion.
Rendre plus efficace le modèle social, sûrement.
La confusion, souvent, est faite. C'est-à-dire, évidemment, les gens se disent, on va piocher dans nos retraites ou dans nos remboursements de santé pour un effort sur la défense. Il faut certainement optimiser nos dépenses, et en particulier notre modèle social qui est globalement financé par le déficit pour l'instant, enfin en partie par le déficit, et puis la nécessaire effort de défense qui est un bon investissement.